Le journal des sciences.
Et on commence, Xavier, cette semaine par une démystification. Celui que l'on prenait depuis 30 ans comme le patient zéro pour l'introduction du VIH aux États-Unis a été en quelque sorte réhabilité.
Oui, c'est vrai qu'un débat historico-scientifique existait déjà, mais depuis les années 80, l'attribution de l'origine de l'épidémie aux États-Unis à un patient zéro, à un steward canadien du nom de Gaëtan Dugas, n'avait jamais été scientifiquement remise en cause. Cette fois-ci, la méthode est nouvelle, puisque les chercheurs ont comparé le génome de souches anciennes de VIH prise à la fin des années 70 à celui qui était présent chez Gaëtan Dugas, ce qui a permis de retracer et d'affiner surtout l'histoire de l'épidémie. Résultat, les souches étudiées sont bien antérieures à la contamination de Gaëtan Dugas et il n'est pas non plus le centre hyperactif sexuellement de l'épidémie qu'on lui croyait, ce qui fait donc de lui qu'il n'est pas le patient zéro. L'analyse génétique avait déjà été tentée sans succès quelques années auparavant, mais là c'était comme analyser un peu l'ADN de Néandertal, m'expliquait Michael Verraby à l'université d'Arizona, c'est le chef de l'équipe qui coordonne l'étude.
Nous avons obtenu certains résultats vraiment nouveaux. Par exemple, on est maintenant certain que la ville de New York est le lieu clé de développement de l'épidémie. Nous avons les dates précises également auxquelles le virus est apparu aux États-Unis 10 ans avant que le sida ne soit identifié comme maladie. À l'époque, on avait déjà suggéré des dates similaires, mais ce qui est nouveau dans notre étude, c'est que nous avons été capables en quelque sorte de voyager dans le temps parce que nous avons pu établir le séquençage réel des souches virales des années 70. Et ça nous dit que le virus circulait déjà pendant des années avant que le sida ne soit reconnu. La technique que nous avons utilisée aussi est entièrement nouvelle pour ce type de recherche et nous espérons que ce sera utile non seulement pour la recherche sur le VIH, mais aussi sur Zika ou d'autres virus émergents. Donc ce résultat a une valeur historique, mais aussi presque thérapeutique. En tout cas, c'est un exercice utile et ça souligne bien l'importance de bien distinguer les attitudes de recherche, la compréhension du fonctionnement d'une maladie ou le procès de ses victimes.
Et il faut ajouter, Xavier, qu'il y avait dans cette affaire de patient zéro une composante, on pourrait dire, culturelle en quelque sorte, puisque Gaëtan Dugas était gay, en pleine affirmation politique de l'homosexualité.
Oui, d'ailleurs, il faut souligner que sur le plan médical strict, le terme de patient zéro est impropre, puisqu'il s'agit d'un patient zéro, en fait C057, O pour Overseas, qu'on a pris pour zéro, puisque Dugas était canadien. En fait, c'est le livre d'un journaliste à la verve assez romanesque à l'époque, à la fin des années 80, qui a popularisé le terme de patient zéro en s'appuyant sur la vie Dugas et d'autres articles moins bien intentionnés ont ensuite insisté sur le fait que Dugas était gay et sur sa vie sexuelle intense puisque, ironie de l'histoire, c'est parce qu'il avait coopéré avec les autorités américaines en déclarant des dizaines de partenaires qu'on l'a fait ensuite passer pour coupable. C'est ce que nous explique Guillaume Lachenal, lui il est spécialiste des questions d'épidémiologie au CNRS.
C'est un coupable presque épistémologique qui va permettre de démontrer et d'incarner le fait qu'on a une maladie sexuellement transmissible. Et ça, scientifiquement, à l'époque, c'est vraiment important. Et puis, c'est un coupable idéal parce qu'il est étranger, parce qu'il est une figure, même au sein de la communauté gay, un peu marginale, particulièrement provocatrice, très ouverte sur sa sexualité, etc. Mmh. Donc c'est un coupable idéal, tel qu'on en a eu beaucoup dans l'histoire de la santé publique, l'idée que l'épidémie vient d'ailleurs et vient des marges morales et sociales de la société. L'autre grand exemple, qui est aussi un exemple new-yorkais d'ailleurs, c'est l'exemple d'un personnage qu'on appelle Typhoid Mary aux États-Unis. C'est une cuisinière irlandaise dont on découvre qu'elle est porteuse saine de la typhoïde. Les gens meurent des épidémies qu'elle provoque dans les cuisines où elle travaille. Donc dans l'Amérique du début du XXe siècle, qui est une étrangère, qui est une femme, qui est célibataire. C'est une figure comme ça aussi inquiétante, qui va devenir une figure importante dans la santé publique américaine, qui contamine des communautés américaines innocentes et respectables avec la typhoïde. Et en quelque sorte, Gaëtan Dugas réactualise cette figure.
En bref, maintenant, Xavier, hormones ou peptides, la course à la contraception masculine est lancée.
Elle est lancée, elle vient de passer même une nouvelle étape avec les résultats de 2 études britanniques publiées en novembre. La première concerne un essai clinique d'un contraceptif hormonal sur 320 patients hommes, donc pour bloquer la production de spermatozoïdes. Avec là 96% de réussite, on prévoirait une pilule à terme, mais on s'est aperçu qu'il y avait des effets secondaires lourds, l'essai a été arrêté. L'autre étude, encore en laboratoire, est plus innovante. Il s'agit d'une méthode là non pas hormonale, hormonale, mais moléculaire, pour empêcher ce qu'on appelle la motilité, en fait la mobilité des spermatozoïdes. Autrement dit, il faudrait les paralyser. Et pour cela, les chercheurs ont utilisé des peptides. Ce sont des ensembles d'acides aminés qui agissent directement sur les autres acides aminés des spermatozoïdes. Donc, en les neutralisant, on utiliserait là des injections. Ainsi, en plus d'un gel très médiatisé prévu pour 2018, voici deux autres méthodes qui pourraient constituer le futur panel de la contraception masculine.
Et c'est en ce moment le congrès mondial contre le cancer, cette semaine donc à Paris, avec des chiffres alarmants pour les femmes, Xavier.
En effet, 5,5 millions de femmes mourront du cancer en 2030. C'est l'estimation globale rendue publique mardi au début du congrès par la Société américaine du cancer. Une hausse de 60% en 20 ans qui serait liée au vieillissement, les habitudes sociales et l'environnement. Avec en effet des inquiétudes particulières pour le cancer du sein après une autre étude publiée dans The Lancet cette semaine qui prévoit lui 3 200 000 cas en 2030. C'est déjà la première cause de mortalité féminine devant le tabac. Les chances de survie sont aussi aujourd'hui étroitement liées à la géographie économique mondiale. 80% au nord, 50% dans les pays en développement, mais faibles en infrastructures comme l'Inde.
Deuxième sujet cette semaine, Xavier, le Brésil se lance dans une guerre génétique contre les moustiques porteurs du virus Zika.
Et même une guerre transgénétique avec OX513A. C'est le nom d'une nouvelle espèce de moustique obtenue donc par transgénèse et produite au Brésil depuis le début de l'année par une entreprise britannique. Le but est très simple, tout simplement éradiquer la population de moustiques existante au Brésil. Elle s'appelle Aedes aegypti et c'est lui qui en effet transmet la plupart des maladies dont la dengue et Zika. La méthode cette fois-ci est génétique, donc uniquement des moustiques mâles sélectionnés qui ont une proportion très forte comme tous les moustiques à la copulation et qui meurent surtout après l'acte et dont la progéniture aussi meurt rapidement. En fait, seule la femelle survit et puisque c'est elle qui pique l'humain et propage les virus, à terme on vise la fin de son espèce au Brésil, tout cela grâce à un gène qu'on dit mortel qu'on a rajouté auparavant dans la lignée. Alors la méthode fonctionne mais elle n'est toujours pas autorisée commercialement par les autorités sanitaires, il n'y a pas non plus d'études épidémiologiques ni écologiques et pour l'instant seule la ville brésilienne de Piracicaba a signé un contrat avec l'entreprise. Les association écologique alerte sur les possibles risques. Écoutez les explications et la réponse de Carla Tepedino, elle est biologiste et coordinatrice de production justement dans cette entreprise Oxitec à Piracicaba.
En fait, nous avons prévu un antidote qui désactive le gène mortel chez nos moustiques. C'est une molécule synthétique qu'on appelle la tétracycline. On l'utilise comme antibiotique chez l'humain. Elle est synthétique parce que nous voulions être sûrs que la descendance de ces moustiques ne pourrait pas la trouver dans la nature et qu'ils mourraient. Jusqu'ici, dans toutes nos expériences, nous avons obtenu 90% de mortalité chez les moustiques ciblés. Et l'adjoint à la santé de Piracicaba vient même de nous dire que dans la zone que nous traitons ici, il y a une baisse de 91% du nombre d'infections à la dengue. Et puis d'après moi, la disparition de ces moustiques Aedes aegypti n'aura pas vraiment d'impact sur l'environnement parce qu'ils seront naturellement remplacés par d'autres populations de moustiques qui, eux, ne transmettent pas ces maladies. En plus, nous avons fait en sorte que nos moustiques meurent au bout de 2 ou 3 jours dans la nature, donc peu de risque qu'on se retrouve avec une population uniquement constituée de OX513A. Au pire, il n'y aura plus de moustiques, en tout cas, il y en aura moins qui seront capables de favoriser des épidémies.
Voilà, et j'ajoute que parallèlement, la Fondation Bill et Melinda Gates développe une autre méthode plus sympathique pour les populations de moustiques. Il s'agit d'inoculer une bactérie qui les rend résistants à Zika et à la dengue.
En bref maintenant, Xavier, l'inauguration d'un nouvel accélérateur de particules pour le CNRS, le Spiral 2.
Spiral 2 pour système de production d'ions radioactifs accélérés en ligne de deuxième génération, inauguré à Rouen hier. C'est un des 4e ou 5e plus grands accélérateurs à particules au monde, avec une machinerie de 7200 m² pour l'instant, la taille d'un terrain de football. Il a fallu l'installer à plus de 9 mètres sous terre pour des raisons de sécurité. En fait, c'est l'augmentation d'un accélérateur existant, puisqu'il faut de très hautes énergies pour pouvoir briser les noyaux des atomes, accélérer les faisceaux de particules denses jusqu'à 25% de la vitesse de la lumière. Avec là deux buts en recherche appliquée, d'abord tester le comportement de nouveaux réacteurs ou produire des isotopes pour la médecine. En recherche fondamentale, c'est continuer la chasse aux fameux noyaux d'atomes exotiques qu'on dit super lourds avec plus de 100 électrons. Et les réglages sont en ce moment, la mise en service effective pour mi-2017.
Le départ de l'astronaute français Thomas Pesquet vers la station spatiale internationale reporté.
Il est reporté au 17 novembre à 23h20. C'est un un décalage qui permettra d'obtenir, je cite, de meilleures conditions balistiques lors de l'arrimage avec l'ISS, la Station Spatiale Internationale. C'est ce que dit l'agence spatiale russe Roscosmos. Thomas Pesquet et les deux autres astronautes russes et une américaine passeront 6 mois à bord de la station. Alors peut-être ce report est-il lié à une phase de test pour les nouveaux systèmes d'arrimage de Soyouz, une des phases les plus critiques de la mission, l'arrimage, puisque le dernier lancement vers la station en juillet avait été aussi retardé de plus de 2 semaines pour des tests complémentaires sur la capsule.
Et pour finir, comme chaque semaine, Xavier, par la rubrique Science Improbable. Cette semaine, c'était Halloween. Et alors que plusieurs villes françaises ont interdit les zombie walks, ces fameuses marches de zombies, aux États-Unis, c'est tout l'inverse. Elles sont jugées utiles pour les autorités publiques et scientifiques.
Et elles deviennent même dans le monde un véritable objet d'intérêt scientifique, en témoigne récemment une étude italienne qui s'intitule « Supposer un zombie sphérique ». En fait, il s'agit tout simplement d'utiliser la physique des particules pour étudier les probabilités de survie d'un humain, qu'il soit reclus dans un supermarché ou bien dans une cabane en forêt entourée de zombies. Donc on étudie la répartition des particules dans des milieux non homogènes. Une autre étude en 2013, par exemple, publiée par un économiste sur les possibilités là d'échappatoire pour un humain qui pourrait courir au milieu des zombies. Objet d'intérêt, donc, c'est aussi, vous l'avez dit, un véritable support pour les politiques publiques américaines depuis 2011, puisque le Center for Disease Control, l'agence sanitaire américaine, utilise une narration apocalyptique pour inciter les populations à préparer des kits de survie et réagir en cas d'épidémie grave ou d'attaque terroriste. Enfin, pour être complet, quant à manger du cerveau, une étude très très récente sur une pratique disparue chez les aborigènes montre qu'elle donne aussi, malheureusement, une sorte d'encéphalopathie spongiforme.